Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 juin, et oui, même si c'est férié, on vous propose une petite émission autour de l'actualité locale, l'actualité mayonnaise. On ne vous abandonne pas. Aujourd'hui, au sommaire de cette émission, on va parler de Robert Tatin, l'artiste, sculpteur et peintre installé à Caussy-le-Vivien dans les années 60-70 avec un musée qui porte son nom. Tout ça, on le connaît bien, mais est-ce que vous connaissez réellement l'homme et sa vie, son parcours de vie? Eh bien, en tout cas, c'est ce que va nous raconter Jean-Yves Goujon, qui a bien connu l'artiste dans les années 70 et qui a écrit un article sur le sujet dans la revue L'Oribus. On va ensuite continuer nos interviews autour des législatives avec un candidat indépendant sur la deuxième circonscription de la Mayenne. Christophe Langouette nous explique ce choix et puis nous déroulera son programme. Et puis, comme chaque lundi, une fois sur deux, une semaine sur deux, retrouver la chronique de la Ligue des droits de l'homme. On va parler santé et accès à la santé aujourd'hui. Et puis on commence en ce lundi un tout nouveau feuilleton réalisé par notre stagiaire Mathéo autour des festivals musicaux en Mayenne. Et on va prendre en Mayenne et dans la région, et on va prendre la direction de Sablé-sur-Sarthe avec un nouveau festival. Ça s'appelle Pop au Parc et vous en saurez plus en fin d'émission. Mais d'abord, on va effectivement commencer avec ce sujet autour de Robert Tatin. Vous connaissez peut-être son musée, certaines de ses œuvres, mais connaissez-vous vraiment sa vie? Le peintre et sculpteur a fait l'objet d'un article très complet dans la revue d'histoire locale Oribus du mois de mai. Article écrit par Hubert Clavreul et Jean-Yves Goujon, qui ont bien connu l'artiste dans les années 70, alors qu'il était déjà installé à La Frénouse à Caussy-le-Vivien depuis quelques années. Et Jean-Yves Goujon en a encore des souvenirs vivaces.
Quand on l'écoutait, moi j'ai découvert surtout un humanisme angoissé, quoi. C'est quelqu'un qui surprend, parce que qui même intimidait ses interlocuteurs par des éclats de voix, mais aussi qu'il étonne aussi par sa connaissance qu'il puisse avoir de l'art, alors que c'est un autodidacte, hein. Il s'est arrêté, il a pu obtenir qu'à son certificat d'études quand il avait 13 ans, je crois, ou 11 ans à cette époque, c'est tout, hein. Puis c'est quelqu'un, bon, qui essayait de, à travers son art, de faire une synthèse entre le monde oriental et le monde occidental, si vous voulez, hein. Très ouvert, s'inquiétait de tout, de la guerre, de la misère, du bonheur, du malheur. Je crois peut-être sans doute pour oublier toute cette agitation du monde, qu'il essayait peut-être à travers son œuvre de faire un pont entre l'Occident et l'Orient, hein. Quand vous rentrez et que vous descendez l'allée des géants, où vous voyez à la fois les Alfred Jarry, André Breton, que vous voyez les peintres qui l'ont marqué, c'est à la fois ce qu'il a vécu dans sa jeunesse et les personnalités qu'il a pu rencontrer aussi. Parce que son œuvre finalement est le résultat aussi de sa vie, de ses rencontres, des pays qu'il a visités, toutes ces différentes cultures que l'on retrouve finalement à travers l'œuvre du musée, et même sur les murs de son musée, quoi. Combien de fois j'ai vu des étrangers venir au musée Tatin parce qu'ils en avaient entendu parler, alors que certains Caussiens n'avaient jamais mis les pieds dans le musée, quoi. Parce qu'aujourd'hui, même, je pense qu'il doit y avoir entre 10 et 15% des gens qui viennent au musée qui sont des étrangers.
Musée qui porte son nom aujourd'hui à Caussy-le-Vivien. L'article complet est à lire dans l'Oribus du mois de mai, le numéro 113, sous le titre « Robert Tatin, itinéraire d'une vie ». On va passer dans quelques minutes à l'interview des législatives, mais d'abord, on écoute « Lire le temps » avec Brocopoli. Dollar bills in the bank. Sitting on the sidewalk, my head is in my hands. Everybody on the way to work, and I stay. New generation, I'm an old boy in the house. Not a left hip, after this, I'm out. Period. I'll be waiting for the next song to pay the bills and make someone answer one of my calls. But I can't cry. I'm still breathing. I paid a price. I know.
Crocodile. misunderstood. How you making fun of me was the time to lose. Everything you have is no money anymore. They got my shoes, my car, my heart, my doors. I pray, I follow your rivers. I knew there were risks, now I'm screwed. Start from the bottom, from one mistake you can sink. It's a chance to take. I know. Seed light and bright morning for more seasons. I'm strong enough now to play games. I'm addicted, I need to win games. Drop my gold digger ego, not thinking idiot. Double, I'm gonna bag it.
I know I'm out of money.
C'était Lire le temps, Brocopolis, c'est ce qu'on vient d'entendre dans la JT du local sur l'autre radio. Et puis vous le savez, hein, depuis déjà quelques jours, on vous propose d'écouter et de découvrir le programme de vos candidats aux élections législatives sur les différentes circonscriptions de la Mayenne. Les élections, eh bien, ça approche, hein, puisque ce sera dimanche le premier tour. Et place ce lundi au quatrième volet de nos interviews des candidats réalisées avec Radio Fidélité Mayenne.
Nous poursuivons notre tour d'horizon des candidats à l'élection législative des 12 et 19 juin prochains, avec un candidat un petit peu particulier aujourd'hui puisqu'il se présente sans investiture vraiment d'un parti, sans étiquette, et ce candidat soutient l'action de la majorité présidentielle. Christophe Langouette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire de Cossé-le-Vivien, c'est la deuxième fois que vous vous présentez pour être élu député. Comme vous êtes tout seul, votre temps de parole est proportionnel aux autres et limité à 4-5 minutes. Alors, tout d'abord, votre candidature intrigue, puisqu'il y a déjà une candidate députée sortante qui se range dans les rangs d'Emmanuel Macron et que le parti a choisi de la soutenir, elle.
Oui, tout à fait. Quand Mme Bagné a l'investiture du mouvement Ensemble, comment moi je me présente devant les électeurs le 12 et 19 juin prochain de façon indépendante, libre, utile. Alors pourquoi cette candidature? Tout simplement parce qu'avec une quarantaine d'élus qui me soutiennent, eh bien nous avons fait le constat de l'absence de Mme Bagné sur le territoire. D'ailleurs, on attend toujours son programme.
En 2017, vous vous étiez retiré pour lui laisser la place. Est-ce qu'il est envisageable que le même scénario se reproduise cette année?
Du tout.
Bien.
Donc, scénario exclu en tout cas pour ça. On le sait, en tout cas, une des principales préoccupations en ce moment des Français, c'est le pouvoir d'achat. Est-ce que là aussi, quelles seraient vos principales mesures? Est-ce que vous soutenez ce qui a été proposé par le gouvernement, à savoir un triplement de la prime? Est-ce qu'il y aurait aussi, pourquoi pas, une revalorisation du SMIC? Comment est-ce que vous voyez les choses? Quelles seraient vos principales mesures?
C'est bien, vous en avez dit quasiment l'essentiel, avec le bouclier sur l'énergie, la retraite à 1100 euros, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on ira très vite, dès que l'ensemble des députés seront élus. Effectivement, comment avoir une position différente que pour le pouvoir d'achat. Effectivement, lorsqu'on voit les augmentations des matières premières pour les particuliers, quand on voit l'augmentation de l'énergie, parce que même s'il y a ce bouclier, il y a quand même cette augmentation qui est là, et pour ceux qui ont les revenus les plus faibles, il est nécessaire de pouvoir les accompagner.
Et comment justement pour ceux qui ont ces revenus les plus modestes?
Vous l'avez dit, hein, avec comment l'augmentation des retraites, comment le chèque alimentation. C'est un ensemble. Après, l'une des meilleures façons de pouvoir contrer toutes ces augmentations, c'est également le travail, hein, pouvoir accéder au travail. Ça s'est fait quand même de façon assez importante lors du mandat précédent, avec une baisse très importante des chômeurs, qui permet effectivement d'avoir un travail, donc des revenus. Mais pour les plus bas revenus, il est nécessaire de pouvoir les accompagner au travers d'éléments, comme je le disais à l'instant, l'instant, le chèque alimentation, l'augmentation du SMIC, les petites retraites, le triplement de la prime Macron. Il y aura sûrement d'autres éléments.
Pardon, je me permets de vous interrompre parce qu'on arrive quasiment à la fin. Comment est-ce que vous trouvez l'argent pour financer toutes ces mesures?
Alors, c'est effectivement là où c'est peut-être le plus délicat, mais il faut penser aussi que lorsque il y a plus de Français à travailler, lorsqu'il y a moins de chômeurs, il y a plus de cotisations dans toutes les caisses, et ça permet effectivement de financer quelques soutiens.
Christophe Longuet, un mot sur l'environnement?
Alors l'environnement, Emmanuel Macron a parlé de décentralisation dans son discours de Marseille, et je crois dans cette décentralisation. J'espère qu'il y aura effectivement des grandes lignes qui viennent protéger, accompagner ces mesures environnementales. Après, moi, ce que je souhaite, c'est que sur les territoires, on puisse avoir les moyens de mettre en œuvre des politiques qui visent à protéger notre quotidien, notre terre. Alors, quelques éléments qui se font sur les toits de façon très, très courte.
Qu'on n'aura pas le temps de développer, pardon.
C'est par exemple, tout ce qu'on fait au niveau des bassins versants, au niveau des plantations d'arbres, au niveau de la voiture électrique, et pas mal d'autres sujets qu'on pourra développer, que vous retrouvez sur mon 4 pages qui est arrivé dans l'ensemble des boîtes aux lettres cette semaine.
Voilà, on ne peut pas ne pas aborder la santé, mais là vraiment, vraiment en 30 secondes.
La santé, alors je suis issu d'un territoire qui s'appelle le Pays de Cran, où les élus, les usagers et les professionnels de santé ont depuis le début des années 2000 vraiment mené une réflexion importante, et même si c'est pas parfait, on voit bien que sur ce territoire, comme sur le territoire de Château-Gontier ou de Mélay, les choses vont peut-être un petit peu mieux qu'ailleurs. En tous les cas, je pense que le parcours de soins c'est une des solutions, peut-être pas la solution, mais qui permettra de prendre en compte la demande des habitants, et qui permet d'économiser le temps des médecins.
Merci en tout cas Christophe Longuet, on le sait c'est toujours court, mais d'avoir répondu à nos questions. On rappelle, vous êtes donc candidat pour être député sur la deuxième circonscription de la Mayenne.
Avec Marlène Das, merci.
Et demain, on entendra les candidats de la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Je vous propose une petite pause justement en musique avec Poky Lafarge. On écoute End My Rope.
Yeah!
Mend My Rope, Poki Lafarge dans l'AJT du local. Vous êtes bien à l'écoute de l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier, 101.7 à Laval. On est toujours dans l'émission l'AJT du local et c'est le retour des chroniques de la Ligue des droits de l'homme en Mayenne avec un zoom aujourd'hui sur la santé. Nouvelle chronique de la Ligue des droits de l'homme en Mayenne avec Loïc Bedouet aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Et on va parler santé et droits de l'homme.
Oui, la santé de l'individu n'est pas un bien commun comme les autres. En effet, elle touche ce qui est de plus intime en la personne. Et en ce sens, les services qui concourent à la prise en soin d'une personne ne peuvent être soumis aux lois de la libre concurrence et du marché économique. Pendant des siècles, les connaissances médicales étaient si faibles et les ignorances tant anatomiques, physiologiques que thérapeutiques étaient telles que les questions de l'égalité de la personne devant la maladie ne se posaient guère. Molière est là pour nous le rappeler, à cette époque, être bénéficiaire d'une thérapeutique ou pas n'avait que peu d'effet sur l'évolution de la maladie, tant l'exercice de la médecine était empirique. L'arrivée de la pharmacopée, puis des techniques d'investigation du corps humain, ont permis de tels progrès que rapidement s'est posée la question de l'accès aux soins pour le plus grand nombre et donc de l'égalité à cet accès. Deux écueils doivent alors être résolus à l'époque, celui du financement et celui de la répartition de l'offre sur le soin sur l'ensemble du territoire.
Et alors dans le passé, comment ces deux écueils ont-ils été résolus ?
Eh bien la question financière a d'abord été résolue par la création de la Sécurité sociale universelle, aujourd'hui appelée assurance maladie, qui rend solvable l'offre de soins par la solidarité. Grâce à une cotisation obligatoire, les personnes bien portantes financent les soins que d'autres ont besoin en sachant qu'un jour, elles peuvent être et pourront se retrouver en position de demandeuse. C'est le concept « je cotise en fonction de mes moyens, je reçois en fonction de mes besoins ». La question de l'offre trouve la solution de la planification gaullienne dans les années 50 qui organise d'un côté la médecine de ville, dite médecine libérale, et de l'autre une médecine hospitalière hiérarchisée en fonction de la gravité pathologique, c'est l'hôpital local, l'hôpital départemental, l'hôpital universitaire. Aujourd'hui, si l'assurance maladie continue à jouer pleinement son rôle de remboursement et de prise en charge du coût des soins, bien que les dépassements d'honoraires viennent battre en brèche cet esprit d'égalité, la situation géographique de l'offre pose la question de l'égalité d'accès à tous à des soins de qualité et sur tous les territoires. Cette question est devenue plus que jamais urgente car il n'est pas de semaine qui se passe sans que nous apprenions la fermeture d'une maternité ou d'un service hospitalier, notamment au service des urgences, accroissant les inégalités, particulièrement pour les plus fragiles, aux moyens de locomotion réduits et accroissant les distances et donc le temps nécessaire pour accéder à des soins parfois vitaux.
Et au-delà de ce dont on vient de parler, d'autres facteurs peuvent-ils entrer en jeu ?
Alors aujourd'hui, l'autre facteur très aggravant dans la période, alors que de nombreux soignants ne supportent plus d'être malmenés et continuent de démissionner, que la Haute Autorité de Santé elle-même s'en émeut dans une lettre ouverte qu'elle a appelée à tous ceux qui œuvrent pour la qualité des soins et des accompagnements, il est donc plus qu'urgent que les instances politiques, en particulier le Parlement, rompent avec les logiques destructives du service hospitalier, seul garant de qualité des soins.
Et puis une autre source d'inégalité potentielle, Loïc, est celle de la fracture numérique.
Oui, autre source d'inégalité potentielle, c'est celle-ci. En effet, au terme d'une phase d'expérimentation, le déploiement de Mon Espace Santé est en cours. Après l'échec du dossier médical partagé, appelé DMP, le gouvernement a souhaité mettre en place un outil numérique au périmètre élargi et dont l'ouverture serait facilitée. L'objectif affiché avec cet espace numérique dédié à la santé, accessible par Internet pour l'ensemble des assurés sociaux, est de simplifier l'accès aux informations sur la santé du patient, d'améliorer ainsi le parcours et la coordination des soins, d'éviter les prescriptions redondantes et donc plus globalement d'améliorer la santé publique. Si l'outil présente d'indéniables potentialités, la Ligue des droits de l'homme invite cependant à la vigilance. Il faut d'abord préciser que l'ouverture de Mon Espace Santé n'est pas obligatoire et que accord ou refus de la part de l'assuré n'a aucune incidence sur le remboursement. Mon Espace Santé offre plusieurs outils susceptibles de présenter une certaine utilité, en particulier concernant le dossier médical qui peut être intéressant tant pour l'assuré que pour le professionnel de santé. Pour autant, nombre d'inconvénients apparaissent, comme par exemple l'absence d'analyse d'impact sur la protection des données malgré les demandes de la CNIL, la création d'un consentement explicite, l'absence de remplacement de Doctolib par un outil dédié et public. Rappelons que Doctolib est géré par une entreprise privée qui stocke des données personnelles sur un serveur géré par une filiale d'Amazon. Et enfin, les discriminations des personnes n'ayant pas Internet ou n'ayant pas la maîtrise de cet outil. Alors tous ces éléments qui sont soit une question d'aménagement du territoire, soit une question de pilotage de notre système de santé, soit une question d'accès pour tous à l'information, relèvent d'une politique publique qui doit impérativement reprendre sa place qui est la sienne dans un souci de recherche d'égalité au service de tous les citoyens de notre pays.
Merci, et puis la prochaine chronique, ce sera d'ici 15 jours dans cette émission. Je vous le disais, cette semaine, on commence un nouveau feuilleton sur les festivals de la région, et là c'est le premier épisode, et à l'occasion, on met le cap sur Sablé-sur-Sarthe avec Pauline Maillet. Elle est chargée de communication pour l'association L'Entracte, qui organise le festival Pop au Parc du 1er au 3 juillet. Et pour un tout nouveau festival, rien de plus important que la communication, selon elle. Pauline Maillet répond aux questions de Mathéo.
Vous vous occupez de la communication extérieure et ou intérieure du festival.
Tout à fait, voilà, communication interne, donc au sein de l'équipe, et puis envers le public aussi, donc tout ce qui est communication papier via l'impression d'affiches, de dépliants et communication numérique avec la gestion du site internet, des réseaux sociaux par exemple. Alors c'est vrai que la communication est vraiment un enjeu important sur ce festival vu que c'est une première édition. Donc on communique énormément via l'affichage, via les réseaux, le site internet du festival. C'est vrai qu'il y a un passé en fait sur Sablé puisqu'on avait le festival Rockissimum et Nuit d'été qui avait lieu le troisième week-end de juillet. Là c'était une volonté en fait de la municipalité en lien avec l'équipe de l'Entracte de créer un nouvel événement. Puisque Rockissimum et Nuit d'été, on a constaté un petit essoufflement au niveau de la fréquentation du public et on voulait vraiment repartir sur une nouvelle proposition. Donc voilà, il y a un véritable enjeu de faire connaître cet événement et voilà, toute la communication qu'on peut faire autour. On rencontre énormément de groupes avec lesquels on travaille au quotidien pour leur parler de ce nouveau temps fort de l'été à Sablé. Et une chose aussi importante, c'est que le festival est entièrement gratuit. Et donc, on compte aussi sur cela pour avoir cette notion d'ouverture, voilà, à un public sabolien et de proximité et de faire venir aussi des têtes d'affiche comme Gauvin Serre, par exemple, de pouvoir venir le voir à Sablé gratuitement. C'est aussi vraiment une opportunité parce que c'est un artiste qu'on peut aller voir dans des zéniths, par exemple. Donc là, c'est voilà, une chance de pouvoir l'accueillir à Sablé et tous les autres artistes aussi que l'on programme dans un festival entièrement gratuit. C'est vrai qu'on a depuis quelques mois maintenant une réflexion à l'Entracte sur tout ce qui concerne l'éco-responsabilité dans nos pratiques voilà, au quotidien au sein de l'équipe et puis aussi dans notre travail au jour le jour. Et ça se reflète aussi dans la programmation. Donc là, par exemple, avec Pop au Parc, donc déjà, tout le festival aura lieu dans le parc du château. Donc voilà, c'était un environnement aussi naturel que l'on souhaite mettre en avant et préserver. On aura toute une décoration du parc qui va être créée par le collectif de créateurs Armin, qui est un collectif breton, voilà, qui va s'occuper de décorer et de mettre en beauté le parc, notamment avec des décorations florales. On a une politique de tri aussi sur les trois jours de festival qui nous tient vraiment à cœur, voilà, autour des éco-cups aussi, les gobelets recyclables que l'on peut proposer aux festivaliers. Et le dimanche après-midi, on va avoir une promenade qu'on appelle Pop au Stand, donc c'est une promenade avec différents stands qui vont être installés dans le haut du parc du château, où on invite en fait des commerçants et aussi des associations locales à venir présenter leurs activités. Et il y aura notamment justement des associations qui travaillent autour de l'éco-responsabilité.
L'Entracte recherche une trentaine de vacataires qui seront rémunérés et disponibles du 28 juin au 4 juillet. Pour postuler, il faut avoir plus de 16 ans et le permis B est un plus. Vous pouvez envoyer un mail à contact@lentracte-sablé.fr. Et on se retrouve demain pour le prochain épisode au Mouillotin à Saint-Poix. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce lundi. Mais restez avec nous puisqu'à 19h, il y aura Solénoïde. Ce sera suivi à 20h de la discothèque d'Arthur et à 21h de l'émission L'Aléatoire. Mais avant, d'ici quelques minutes à 13h, Regard d'ailleurs vous propose une rencontre avec Jean à Auroville en Inde. Jean qui fait partie des pionniers à être arrivé ici pour bâtir cette ville. Une ville qui ressemble à aucune autre. Ce sera Regard d'ailleurs à 13h. Et nous, on se retrouve demain pour une émission en direct à 12h15. Je vous souhaite une très belle journée.